20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, le pianiste Jean-Eflam Bavouzé est notre invité ce soir pour parler de Beethoven, de ses contemporains notamment, qu'il vient de mettre à l'honneur dans un album, et des concertos pour piano de Beethoven dont il nous offre également sa lecture au disque. Avant cela, intéressons-nous à quelques autres événements de l'actualité musicale. C'est une jeune chef indonésienne de 36 ans, Rebecca Tong, qui a remporté vendredi soir le premier concours La Maestra, qui se tenait la semaine dernière à la Philharmonie de Paris. Rebecca Tong a fait forte impression, tant auprès du public que du jury, par son engagement et son énergie. La toute jeune franco-britannique Stephanie Childress a remporté le deuxième prix, et la colombienne Lina González Granados s'est vu attribuer le troisième. Vous trouverez tous les détails des résultats de ce concours dans l'article de Philippe Gault publié sur le site de Radio Classique. Le chef Laurent Campellone vient quant à lui d'être nommé directeur général du Grand Théâtre de Tours, une institution qui a été secouée depuis quelques mois par une crise, par un conflit entre les musiciens de l'orchestre et Benjamin Pionnier, leur ancien directeur. Laurent Campellone est un chef très engagé dans le domaine lyrique et notamment dans le répertoire français. Il s'est distingué entre autres dans quelques mémorables productions d'ouvrages d'Offenbach, telles Madame Favart, Fantasio ou La Belle Hélène. Il a été en outre directeur musical à l'Opéra de Saint-Étienne pendant 11 ans. Depuis plusieurs mois, le pianiste David Frey s'est lancé dans une réflexion sur ce fameux monde d'après, sur ce que pourrait devenir la vie musicale à la suite du traumatisme du confinement, sur les valeurs que l'on pourrait mettre en avant. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un festival, l'offrande musicale, centrée sur la cause du handicap, cause qui lui tient particulièrement à cœur. Ce festival se tiendra au début de l'été dans les Hautes-Pyrénées, mais un concert de lancement aura lieu mercredi en l'abbatiale de Saint-Savin, c'est donc dans les Hautes-Pyrénées. David Frey s'associera à Renaud Capuçon pour jouer des sonates de Bach et de Beethoven, deux concerts même à 18h et 20h30. Parmi les nouvelles publications de la semaine, un album absolument jubilatoire, celui des deux mezzos, alias Karine Dehé et Delphine Edan. Accompagnée par le pianiste Joanne Fargeau, elle nous offre un florilège d'un répertoire qu'elle fréquente avec bonheur depuis des années, dans lequel s'expriment leur profonde amitié, leur complicité artistique, leur joie de chanter à deux dans un esprit de musique de chambre. Mendelssohn, Gounod, Forêt, Saint-Saëns ponctue ce programme, mais aussi Brahms, avec quelques irrésistibles duos.
Das Leben, ein Band.
l'un des duos de Brahms qui figure au programme de cet album De Mezzo Sinon Rien, sorti chez Clart. Karine Dehé et Delphine Edan sont accompagnées ici par le pianiste Joan Fargeot et ils seront nos invités mercredi de la semaine prochaine dans le Journal du Classique.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Après avoir enregistré une formidable intégrale des sonates de Beethoven, Jean-Efflam Bavouzé s'est intéressé aux compositeurs un peu oubliés qui ont contribué au développement du génie beethovenien, à savoir Clementi, Dussek, Hummel et Wölfel. Des compositeurs qu'il a donc choisi de mettre à l'honneur dans un album, le premier d'une collection intitulée Beethoven Connection, un album avec lequel on se régale depuis quelques semaines sur Radio Classique. Jean-Efflam Bavouzé est justement notre invité ce soir, alors que vient également de sortir le premier volume de son intégrale des concertos de Beethoven. Alors si son activité discographique est toujours aussi intense, Jean-Efflam Bavouzé a aujourd'hui, comme beaucoup de musiciens, dû mettre un frein à sa carrière de concertiste. Il se confie justement ce soir sur cette nouvelle vie, bien moins frénétique qu'avant.
C'est-à-dire, on passe par des périodes différentes. Les premières semaines, c'est comme si on avait abattu un oiseau migrateur, quoi. Et pof, il tombe et il se retrouve avec les quatre fers en l'air et il sait pas du tout quoi faire. Et puis après, les trois premiers mois, c'est plutôt ludique. On se dit, ah ben chic, j'ai un peu de temps, je peux me refaire une santé, je peux profiter, me calmer un peu de cet enchaînement continuel d'avions. Mais là, je dois vous avouer, ça devient plus drôle du tout. Là, maintenant, je pense évidemment à mes collègues qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a des initiatives. On est tous évidemment reconnaissants à René Martin d'avoir maintenu la Rogue d'Anteron qui nous a fait travailler pour ses concerts. Mais il n'y a pas beaucoup. Et puis surtout que moi, mon activité était principalement à l'étranger. Et donc on est un peu cloué au sol. Ce qui est plus difficile, je trouve, c'est de préparer des concerts quand on apprend quelques semaines avant qu'on peut pas aller dans le pays ou qu'il y a une quarantaine impossible à pouvoir mettre en place ou que le concert est tout simplement annulé ou qu'il est reporté. Dans mon cas, j'ai toujours marché avec les carottes. Plus j'avais de carottes, plus j'avançais. Et donc là, maintenant, on est un peu terrassé. Oui, le moral n'est pas forcément au beau fixe en ce moment, c'est sûr. Heureusement qu'on a la musique.
peu de concerts en ce moment. Heureusement, il y a votre riche actualité discographique, Jean-Eflam Bavouzé. C'est à Beethoven que vous rendez hommage dans votre tout récent album intitulé Beethoven Connection. Beethoven qui ne figure pas au programme de cet album, mais on découvre notamment l'œuvre de Joseph Wölfel, dont une délicieuse sonate ouvre le programme. Vous mettez également à l'honneur Clementi, Hummel ou encore Dussek, autant de contemporains de Beethoven, plus ou moins oubliés ou négligés aujourd'hui, mais qui sont, selon vous, Jean-Eflam Bavouzé, essentiels, qui ont été en tout cas essentiels au développement du génie beethovenien.
Oui, mais c'est évidemment maintenant avec le temps, on voit ces compositeurs avec le prisme du succès et de la reconnaissance et de l'amour qu'on porte pour Beethoven. On oublie, je pense à tort, toute cette musique très riche qui était là à son époque. Et même si on se concentre sur notre très cher Beethoven, si on se concentre sur lui, on voit aussi, et c'est cette démarche qui m'intéressait, parallèlement à celle de faire découvrir d'excellente musique, mais de voir qu'est-ce qui fait que Beethoven est Beethoven. Je me suis retrouvé tout à fait dernièrement, justement en préparant le concert de la Rognatiron dont je vous parlais, on partageait les sonates de Beethoven avec des amis. Je me suis donc remis à ces sonates de Beethoven que je joue depuis toujours, que j'ai enregistrées. Bon, voilà. Et là, ayant fréquenté pendant nombreux mois Hummel, Dussek, Clementi, Wölfel, Haydn, je suis rentré à la maison et j'ai dit une fois à ma femme, mais c'est drôle, Beethoven me semble tellement bizarre. Des choses que je prenais comme argent comptant des sonates de Beethoven, des effets qui ne m'avaient jamais paru extraordinaires, je me retrouvais dans la position, si vous voulez, des contemporains de Beethoven qui disaient que ses idées ne s'enchaînaient pas, qu'il n'avait pas un jeu naturel, qu'il exagérait tout. Et il cassait tout. Il cassait les codes dans la forme musicale, mais aussi dans la manière de jouer. On lui reprochait de casser des cordes, de taper à côté. Et en fait, je pense que c'était lui, c'était le pouvoir de l'expression qui l'intéressait, de pouvoir d'élargir le spectre d'expression musicale. Et donc, je me suis retrouvé pendant quelques semaines en préparant ces sonates de Beethoven, donc, à me dire, mais en effet, mais c'est très bizarre ce qui se passe ici dans ces quatre mesures-là. Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on sent aussi un compositeur qui utilise des paramètres musicaux, je ne veux pas dire négligés jusque-là, mais par le rythme. Le rythme chez Beethoven, c'est une explosion d'audace et de choses qui, encore aujourd'hui, nous stimulent et nous interrogent. Et on voit bien que les compositeurs de l'époque, le rythme, c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse le plus. Ils ont des trouvailles, mais la plupart, par exemple, utilisent un rythme qui est absolument commun, qui est ce fameux rythme à quatre temps, tam, pam, 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 qu'on trouve dans plein d'œuvres de Mozart, qu'on trouve beaucoup chez Clementi, qu'on trouve beaucoup chez Hummel, qui ouvre la sonate de Wölfel. Eh bien, je n'ai pas trouvé à ce jour une seule œuvre de Beethoven qui utilise ce rythme. Ça veut dire qu'il veut se démarquer sur un terrain qui, lui, pense doit être encore beaucoup plus riche, et à tel point qu'il se refuse, alors consciemment ou inconsciemment, ça je ne sais pas, mais d'utiliser les rythmes standards de l'époque.
Mais qu'est-ce qu'il leur doit, Jean-Eflam Bavouzé, Beethoven, à ses compositeurs, à ses Clementi, Hummel et Dussek en même
d'abord
temps?
D'abord d'être publié. Clementi a publié beaucoup d'œuvres de Beethoven. Il leur doit beaucoup au niveau de l'inspiration mélodique. L'argot du premier concerto de Beethoven est une mélodie de Dussek. Les compositeurs on peut pas dire se copier, mais quand il y avait un thème qui leur plaisait, eh ben c'était rendre hommage à l'ami, au collègue, puis d'en faire autre chose. Je fais toujours cette analogie avec les montagnes. Une énorme montagne comme l'Everest, comme le Mont Blanc, ça sort pas de nulle part. Ça, il y a pas une plaine et puis soudain un pic de 5000 mètres. Il y a toujours une chaîne de montagnes qui est tout autour et qui sont parfois très intéressantes, d'où il y a une très très belle vue. Il n'y aurait pas le Mont Blanc, il n'y aurait pas l'Himalaya. Ce qui est très intéressant à cette époque-là, autour de 1800, c'est que quand même la plupart des compositeurs, en tout cas autour de Vienne, partagent la même grammaire musicale. Alors ce qui est d'autant plus intéressant pour nous, c'est de voir qu'est-ce qui les différencie. Et qu'est-ce qui fait que Beethoven est Beethoven? Mais là, dans ce disque, je pense que j'ai pu participer, très modestement, je ne vais pas dire à la redécouverte. Je me souviens très bien, par exemple, d'Horowitz. En 85, j'ai eu la chance de jouer pour lui. Horowitz, qui était un des rares à jouer Clementi. Vous deviez jouer Clementi. Très bonne musique, c'est excellente musique. Bon, ça m'a pris un peu de temps pour mettre son conseil en pratique, mais bon, voilà, maintenant c'est fait. Thank you.
Cet album Beethoven Connection qui vient de paraître, Jean-Efflam Bavouzé, met donc à l'honneur différents compositeurs contemporains de Mozart qui ont marqué son parcours, et notamment Jan Ladislav Dussek, dont on perçoit un langage déjà très romantique. Quels étaient d'ailleurs les liens de Dussek avec Beethoven, et comment peut-on créer une connexion entre Dussek et Beethoven?
Mais tous ces compositeurs étaient au courant des œuvres les uns des autres. Dans le cas de Dussek, évidemment, tout n'est pas absolument d'un énorme intérêt. Mais dans cette sonate, ce qui est très curieux, c'est que on y entend non seulement Chopin, on y entend déjà Schumann. Si on le joue lentement, certains passages, c'est presque wagnérien. Et alors, il y a quelques mesures dans le premier mouvement de cette sonate en fa dièse mineur. Alors là, c'est Michel Legrand. Mais je vous jure, je vous joue ça, vous ne pouvez absolument pas penser à un compositeur du 19e siècle. C'est pas possible.
Mais il avait ce côté visionnaire qu'avait Beethoven alors.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il l'a eu une ou deux fois, tandis que Beethoven, il l'a eu toute sa vie. C'est évidemment ça qui fait une grande différence.
Alors Beethoven, vous lui rendez hommage dans cet album, Jean-Efflam Bavouzé, vous avez enregistré toutes ses sonates pour piano, mais aussi ses concertos pour piano, un enregistrement qui paraît ces jours-ci, toujours sous le label Chandos, des concertos que vous dirigez vous-même du piano avec le Swedish Chamber Orchestra. Pourquoi avoir choisi de les enregistrer sans chef?
Alors je suis absolument ravi, je ne veux absolument pas esquiver cette question qui me fait très plaisir, mais je voulais tout simplement rajouter par rapport à l'album Beethoven Connection, c'est que justement, en travaillant lentement et en apprenant ses œuvres, je me suis rendu compte, mais je connais cette musique, ça vient d'où? En fait, il y a des rapports évidents entre, par exemple, des extraits de cette sonate de Hummel que j'ai et l'opus 10 numéro 1 de Beethoven, ou la sonate de Clementi en la majeur avec l'opus 101 qui est aussi en la majeur. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire comprendre à l'auditeur ce rapprochement, plutôt que l'écrire dans un texte, autant le mettre devant, j'allais dire, le fait accompli, et avec un bonus track, de le mettre en parallèle. Là, je suis très fier de cette petite idée. Alors, pour en revenir à votre question, ne pas se servir d'un chef, absolument, évidemment, c'est pas pour dire, parce que les chefs sont inutiles. J'ai eu des énormes joies musicales, et notamment avec mon ami Gabor Takacsnadze, avec lequel on a enregistré tous les concertos de Haydn, et avec maintenant, on fait tous les concertos de Mozart. Mais il y a quelque chose qu'une version sans chef, évidemment, aura, c'est ce contact absolument immédiat et direct avec les musiciens. Surtout si vous travaillez avec des musiciens qui savent où vous voulez les mener. Alors, moi, je ne me suis jamais positionné devant n'importe quel orchestre où j'ai eu cette expérience en disant, voilà, je suis le chef d'orchestre, maintenant vous me suivez. Non, il y a évidemment un échange entre nous. J'avais insisté pour mettre le piano au milieu et tous les musiciens autour. Le plaisir d'avoir tous ces musiciens si proches et d'être au milieu d'eux et de créer cette énergie ensemble. Je dois vous avouer, dans les années 80, j'avais un groupe de jazz rock. J'en ai gardé un souvenir extraordinaire parce que cette musique que j'aimais beaucoup, une musique basée sur le rythme, sur l'énergie, et ça fait parmi de mes plus belles expériences de musique de chambre. Or là, j'ai retrouvé un peu de cette impression tout à fait, j'allais presque dire primaire, de créer quelque chose ensemble et de pouvoir leur donner les impulsions rythmique ou de sculpter le son dans les mouvements lents. Alors, évidemment, pour ceux qui aiment les grands orchestres symphoniques avec un son assez riche, luxuriant et des tempos lents dans les mouvements lents, alors ça, c'est évidemment, ça ne sera pas leur tasse de thé. Moi, j'ai voulu insister sur le côté de l'énergie rythmique de Beethoven, de sa modernité. Peut-être certains sont surpris des mouvements lents pris d'une manière assez allante. Je pense que j'allais présenter un peu des défauts du romantisme. Quand on regarde les tempos métronomiques, par exemple de Czerny, même sur les mouvements lents, on est surpris de la manière dont Czerny pense que ça doit être un largo. Il dit ça, finalement, il faut mieux penser à un andante tranquille. Alors évidemment, il y a nos instruments merveilleux d'aujourd'hui. J'ai enregistré sur un superbe Yamaha, sur lequel je fais d'ailleurs récemment tous mes disques, qui a une longueur de son incomparablement plus grande que les pianos de l'époque de Beethoven.
Vous n'avez jamais été tenté, justement, Jean-Yves Bavouzé, vous qui faites tant de recherches musicologiques par les instruments anciens.
Oui, très inspiré, ça c'est sûr. D'ailleurs, je dédie mon coffret à Paul Badoraskoda, qui était évidemment commencé un des grands collectionneurs d'instruments et un des premiers à avoir enregistré Haydn, de l'avoir entendu, lui, jouer sur un instrument moderne, mais le faire sonner comme un pianoforte, il savait très bien, puisqu'il en avait tellement à la maison. Ça, pour moi, ça a été une véritable révélation. Bon, on pourrait dire, à quoi ça sert d'enregistrer encore les concertos de Beethoven? Je regardais récemment sur Udadjo, je tapais le premier concert, j'ai 182 versions. Ceci dit, si on n'enregistre plus du tout, si on prend le problème à l'envers, c'est pas très malin non plus, parce que finalement, Beethoven peut très bien aussi mourir sans nous. Si plus personne n'enregistre Beethoven aujourd'hui, il y aura donc plus du tout d'interprétations qui correspondront à notre sensibilité d'aujourd'hui. Or, écoutez les enregistrements de 40-50 ans, il y a déjà une évolution incroyable. On vit déjà dans un monde complètement différent. Notre rapport au temps est différent, et dans 50 ans, ça sera encore différent. Donc, je trouve, en fait, finalement, non, il faut continuer à enregistrer les grands chefs-d'œuvre, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une démarche sur la musique d'aujourd'hui et qu'il faut, évidemment, continuer à faire que la musique soit vivante et soutenir les créateurs mais d'aujourd'hui.
On vous encourage, Jean-Yves Bavouzé, à continuer à enregistrer les grands chefs-d'œuvre, la musique de Beethoven, la musique de Mozart, la musique de Haydn, avec bientôt un prochain volume des sonates de Haydn apparaître.
Voilà, il y en a encore, on en est au 9e volume. Et alors, ça, c'est une bonne chose du Covid, puisqu'on ne peut pas faire des concerts, on peut au moins enregistrer. Donc, je pense que, normalement, si on s'en tient au nouveau plan qu'on vient de finir, le volume 11, donc le dernier, sera enregistré en janvier.
C'est bien parce que tous les 2-3 mois, on a un nouvel enregistrement de Jean-Yves Bavouzé.
Et
on se régale avec sur Radio Classique.
Merci, oui, je sais, merci beaucoup.
Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup.
Merci.
le final du troisième concerto pour piano de Beethoven avec Jean-Efflam Bavouzé au piano et à la tête de l'orchestre de chambre suédois, un enregistrement qui vient de paraître chez Chandos. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la soprano Sabine Devielle. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.